Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Ambassade d'Indonésie au Caire attendons l'Expo 2017. L'IPI encourage l'augmentation des chercheurs via l'activité du camping scientifique national de la jeunesse. L'Université Hasanuddin, l'hôte d'une réunion de trois universités d'État. L'Indonésie et l'Iran ont convenu de finaliser les négociations commerciales à la fin de l'an 2017. Singapour offre l'aide de la restauration des tourbières de Sumatra du Sud. Et enfin, Samosir International Music introduit les chansons de Batak au monde. Voici le journal complet. L'ambassade d'Indonésie au Caire organisera Indonesia Expo 2017. L'exposition dans le commerce, le tourisme et l'investissement devrait être une étape concrète de l'ambassade d'Indonésie dans le renforcement de la diplomatie économique. Les relations de coopération entre l'Indonésie et l'Égypte dans divers domaines peuvent être améliorées grâce au potentiel de l'Égypte, entre autres l'emplacement géographique stratégique en tant que lien entre les continents d'Asie, d'Afrique et d'Europe par le canal de Suez. L'ambassade d'Indonésie au Caire organise Indonesia Expo 2017, l'exposition intégrée du commerce, du tourisme et de l'investissement 2017. Le premier secrétaire des affaires de l'information et socioculturelle de l'ambassade d'Indonésie au Caire, Nini Rahayu, a déclaré à RRI Langli au Caire que cette activité se tiendrait du 21 au 23 septembre 2017 au Caire. On souhaite que cette activité puisse être une étape concrète pour renforcer la diplomatie économique de l'Indonésie. Cet événement est une étape concrète pour l'ambassade d'Indonésie de renforcer la diplomatie économique de l'Indonésie, en particulier dans les domaines du commerce, du tourisme et de l'investissement, bien sûr avec des résultats mesurables. Selon Nini, pour le secteur du tourisme, l'ambassade d'Indonésie invitera les agences de voyage en provenance de l'Indonésie et de l'Égypte à participer à cette exposition. Jusqu'à présent, Bali reste une destination favorite pour les touristes étrangers, y compris les touristes de l'Égypte. Par conséquent, l'ambassade continue d'introduire les principales destinations touristiques d'Indonésie, entre autres Bali. En 2014, environ 10 000 voyageurs égyptiens ont visité l'Indonésie. Ce nombre a augmenté à environ 13 000 à la fin de 2016. L'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, utilise l'activité du Camping Scientifique National de la Jeunesse, PIRN, afin d'encourager l'augmentation du nombre de chercheurs à l'avenir, au lycée ou équivalent. Il est déclaré par le chef adjoint de l'IPI, Bambang Subianto, au 14e Camping Scientifique National de la Jeunesse à Aceh Langli. Selon lui, aujourd'hui, l'Indonésie a besoin de moins de 150 000 chercheurs. Le besoin de chercheurs augmentera en ligne avec la croissance de la population indonésienne. Cette activité est participée par environ 450 jeunes des lycées, les écoles professionnelles ou SMK, ou l'équivalent de 28 provinces. Bambang Subianto a souhaité qu'il y ait des candidats pour les nouveaux chercheurs dans les niveaux central et régional, quelques emplacements qui seront le lieu de leur recherche, entre autres Pasir Putih, tempat pendaratan ikan au TPI Lampulo, Semen Andalas, Kampung Lampulo, Lampisang, Waduk Keliling, Lampaya, Elok Sedu. L'Université Hasanuddin, lors de la quatrième table ronde de l'Université Trilatérale ou TORM des 3P, à savoir Indonésie, l'Australie et le Timor-Oriental, tenue du 10 au 12 juillet 2017 au campus de l'Université Hasanuddin Tamalandria, Makassar, Sulawesi du Sud. Le responsable de l'unité des relations publiques et de protocole de l'Université Hasanuddin, Ishak Rahman à Makassar, mardi, a déclaré que la quatrième table ronde de l'Université Trilatérale TORM était le forum de dialogue et la réunion annuelle qui visait à renforcer la coopération entre les universités de l'Australie ou Northern Territory Region, l'Indonésie ou Indonésie orientale et Timor-Leste. TORM a été lancé en 2013 par les dirigeants des 3P et certains dirigeants universitaires de ces 3P. Chaque année, TORM organise des réunions pour renforcer le centre d'excellence de chaque collègue dans le cadre de la collaboration et la coopération. La quatrième réunion de TORM à l'Université de Hasanuddin est assistée par plus de 30 participants des universités en Australie, en Indonésie et au Timor-Oriental. La réunion de cette année vise également à augmenter le niveau de la coopération du forum de dialogue en un consortium plus fort. L'Indonésie et l'Iran ont convenu de finaliser les négociations commerciales de l'accord commercial préférentiel Indonésie-Iran ou WIPTA à la fin de 2017. Et cet accord est ciblé pour élargir et diversifier les marchés d'exportation des deux pays. Le chef d'équipe des négociations WIPTA, Madhu Ayu Martini, dans un communiqué de presse lundi cité par Antara, a déclaré que l'ouverture de l'accès au marché pour les produits excellents d'Indonésie et de l'Iran pourrait augmenter la valeur totale des échanges bilatéraux à 2 milliards de dollars américains par an. L'Indonésie et l'Iran négocient WIPTA à Téhéran, en Iran, dimanche 9 juillet. En effet, les hommes d'affaires, l'Indonésie et l'Iran peuvent bénéficier de WIPTA de manière optimale. Les deux parties espèrent déterminer immédiatement le mécanisme de paiement pour faciliter les transactions commerciales afin que les hommes d'affaires puissent bénéficier non seulement sous la forme de réduction tarifaire, mais aussi une exemption ou une réduction des coûts de transaction lorsque WIPTA a été appliqué. Le gouvernement de Singapour a offert son aide au gouvernement local de Sumatra du Sud pour restaurer les tourbières dans cette région d'être plus productives. Ce désir est transmis par le raisin de Musi Banyuasin, Sumatra du Sud, Dodi Reza Alex, après sa rencontre avec le ministre de l'Environnement et des Ressources en eau de Singapour, M. Zulkifli bin M. Muhammad, à Palembang lundi. Selon Dodi Reza Alex, cette aide est sous forme de renforcement des capacités des ressources humaines dans la province à travers une formation de gestion des tourbières. Selon lui, cette offre est basée sur la réunion du ministre Zulkifli avec le gouverneur de Sumatra du Sud, Alex Nurdin. Outre Dodi, le gouverneur a également invité le raisin Dogan Komering Ilir à rencontrer le ministre Zulkifli pour discuter de la formation de gestion des tourbières. Il a expliqué, les raisins de Musi Banyuasin et Dogan Komering Ilir sont invités à assister à la réunion parce que les deux régions ont beaucoup de tourbes. L'une des zones proches des destinations prioritaires du ministère du Tourisme est le lac Toba, qui dans un proche avenir aura un événement international. Le ministère du Tourisme soutiendra la performance musicale intitulée Samosir International Music tenue le 12 août à Tuk Tuk Siadong, le district de Simanindo, la résidence de Samosir, Sumatra du Sud. Comme cité Republika Online lundi, la zone des affaires du développement de marketing touristique de l'archipel Esti Reko Astuti a dit que cet effort est conforme aux politiques gouvernementales dans le développement des destinations prioritaires. L'une d'elles est la région du lac Toba. Il a ajouté que Samosir International Music devenait l'un des événements excellents. L'événement est également un effort pour augmenter les arrivées des touristes nationaux et les touristes étrangers cette année en raison de sa mesure qui ciblait plus de 200 000 touristes. Cette activité vise aussi à soutenir le programme du merveilleux d'Indonésie ciblant 15 millions de touristes étrangers et de 165 millions du mouvement des touristes nusantariens. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Serviteur, voici donc le commentaire ayant pour le titre le 70e anniversaire de la Journée nationale de la coopérative. Pour l'économie indonésienne, juillet est un mois spécial. Ce mois-ci, précisément le 12 juillet, l'Indonésie commémore le 70e anniversaire de la Journée nationale de coopérative. Le thème est « Coopérative vers le bien-être équitable de la communauté pour renforcer l'état unitaire de la République d'Indonésie ». Sur la base de son âge, la coopérative en Indonésie devrait vraiment être un pilier de l'économie indonésienne afin d'être côté à côté avec d'autres économies, comme les entreprises privées et les entreprises appartenant à l'État. De plus, la coopérative a un rôle et un potentiel économique assez élevé. Le nombre de coopératives en Indonésie est le plus grand au monde, soit environ 208 000 coopératives. Malheureusement, certaines coopératives établies sont inactives. L'année dernière, il a été enregistré plus de 62 000 coopératives ont été gelées en raison de l'inactivité. La congélation de la coopérative inactive se fait en fournissant des numéros d'identification coopérative dans la base de données coopératives qui a été créée par le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises. La présence et l'existence des coopératives comme l'impulsion de l'économie populaire sont très importantes. Plascan particulier, la coopérative peut améliorer le bien-être économique de ses membres et en général peut créer et développer le potentiel économique de la communauté. En voyant l'unicité des coopératives liées étroitement aux membres et à la société, parce qu'elles se forment sur la base de la similitude, les coopératives ne devraient pas être laissées par rapport à d'autres entités commerciales. Des efforts considérables ont été accomplis par le gouvernement pour promouvoir davantage la coopérative en Indonésie. L'un d'entre eux est le développement de réseaux coopératifs dans toute l'Indonésie. Le ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises a révélé que le réseau sous la forme d'une coopération commerciale entre les coopératives devait être développé en Indonésie. En plus d'être plus efficace, le réseau coopératif contient une valeur stratégique dans le renforcement de l'État unitaire de la République d'Indonésie. Ce réseau peut être la réponse pour faire la synergie d'une coopérative avec une autre. Peut-être une matière première coopérative qui existe dans l'île de Java peut coopérer avec les coopératives de production existantes dans d'autres îles. Ce réseau ouvrira certainement la porte d'affaires de coopération plus large. En commémorant la 70e journée nationale de coopérative, il ne suffit pas de tenir une variété d'activités. Le pic d'événements aura lieu le 12 juillet 2017 à Makassar, Sulawesi du Sud. Le président Joko Widodo et environ 40 000 activistes coopératifs de toute l'Indonésie participeront à cet événement. Ce qui est plus important est la sensibilisation des membres coopératifs et le soutien du gouvernement pour intégrer le développement des coopératives au programme global de développement. Les ressources humaines qui ont des compétences techniques et de gestion devraient être encore améliorées pour établir la fonction des coopératives comme l'artère économique des gens. De cette façon, l'un des idées du programme Nawacita du président Joko Widodo, à savoir la réalisation de l'indépendance économique en déplaçant le secteur stratégique de l'économie domestique, peut être atteint. À l'échelle mondiale, on s'attend à ce que les coopératives en Indonésie soient plus populaires dans le monde, non seulement en termes de nombre de coopératives en Indonésie. Bon anniversaire de la Journée nationale de coopératives. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 11 juillet est la Journée mondiale de la population. La Journée mondiale de la population est une célébration annuelle a lieu chaque année le 11 juillet. En 1989, le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement, ou PNUD, a recommandé de faire du 11 juillet la Journée mondiale de la population afin d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population, notamment dans le cadre des plans et programmes généraux de développement. Le thème de cette année est « Investir dans les adolescentes ». Cette date a été choisie pour commémorer le jour où la population mondiale a atteint 5 milliards de personnes, le 11 juillet 1987. Le 11 juillet 1921, l'indépendance de la Mongolie. La Mongolie est un pays d'Asie centrale. Elle est un pays avec une histoire ancienne et était devenue une superpuissance dans le 13e siècle. À cette époque, la Mongolie a été dirigée par le roi Genghis Khan, qui a réussi à étendre son pouvoir d'Asie jusqu'à l'Europe. Après la mort de Genghis Khan, la Mongolie a été divisée en deux parties, à savoir la Mongolie antérieure, contrôlée par la Chine, et la Mongolie extérieure. À la fin du XVIIe siècle, la Mongolie extérieure est également contrôlée par la Chine. En 1911, l'indépendance de Mongolie de la Chine est bientôt contrôlée par la Russie. Après la révolution communiste en Russie en 1921, la Mongolie extérieure a proclamé son indépendance et en 1924, après la mort du roi de la Mongolie sous la provocation soviétique, ce pays a changé le système de gouvernement du royaume et devenu la République socialiste. Le 11 juillet 1995, le massacre de Srebrenica, environ 8 000 musulmans en Bosnie ont été tués par les troupes serbes en Bosnie dirigées par le général Ratko Mladic. Le massacre de Srebrenica, parfois appelé génocide de Srebrenica, désigne l'assassinat de plus de 8 000 hommes et adolescents bosniaques. Ces Bosniens musulmans dans la région de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine au mois de juillet 1995 durant la guerre de Bosnie-Herzégovine. Le général Mladic est maintenant un fugitif international accusé coupable de génocide et d'autres crimes de guerre en Yougoslavie. Le 27 février 2007, la Cour internationale a fixé cet incident comme un génocide. En plus des forces serbes en Bosnie, les forces paramilitaires serbes Scorpion sont également coupables de ce massacre. Le massacre de Srebrenica est également considéré comme le plus grand assassinat en masse en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le massacre de Srebrenica est défini pour la première fois comme un génocide par la loi. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel de titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Le président Joko Widodo apprécie la performance de la police dans le 71e anniversaire de Bayangkara ». La police nationale indonésienne ou Polri a commémoré la 71e journée Bayangkara qui a eu lieu le 1er juillet 2017. Mais la commémoration a été tenue lundi le 10 juillet 2017 à Monas, Jakarta. Le président était l'inspecteur de cérémonie dans la commémoration de la journée de Bayangkara, qui a été aussi assisté par la première dame Iriana Jokowi, le vice-président Yusuf Kalla et sa femme Mufida Yusuf Kalla, le cinquième président Megawati Sukarnoputri, l'ancien vice-président Tri Sutrisno, les chefs d'agence d'État, les ambassadeurs des pays amis et des représentants de la police de la République d'Indonésie. Comme cité par l'agence de presse Antara, le président Joko Widodo a fait l'éloge de la confiance du public à la police de la République d'Indonésie, comme montré par les résultats du sondage des institutions crédibles. Il a également dit qu'à l'âge de 71 ans, la police nationale a fait preuve de dévouement, la loyauté et l'intégrité pour soutenir la réalisation du développement national et l'égalité économique avec la justice. La police est également considérée comme capable de réaliser la sécurité nationale et de la situation stable et favorable. Le président a également donné 5 instructions à la police. Tout d'abord, améliorer la gestion interne de la police nationale pour réprimer la culture négative telle que la corruption, l'usage excessif de la force et l'arrogance de l'autorité. Deuxièmement, renforcer la solidité interne et le professionnalisme de la police nationale indonésienne afin de soutenir la création d'une personnalité indépendante et souveraine. Troisièmement, optimiser la modernisation de la police nationale avec l'utilisation des technologies de l'information dans la fonction publique. Quatrièmement, améliorer la préparation opérationnelle via la détection précoce et la détection action avec la stratégie professionnelle proactive. Cinquièmement, améliorer la coopération, la coordination et la communication avec tous les éléments du gouvernement et de la société, ainsi que des collègues internationaux, comme la mise en œuvre de la proximité et la synergie pour créer la situation favorable. Le président a également confirmé que le chef de l'État soutient la police étant forte, fiable et professionnelle, afin que la tâche de la police dans le maintien de la stabilité de l'ordre social ou sécurité de l'ordre public, l'application de la loi, comme les protecteurs et les serviteurs du peuple, puisse être faite de façon optimale. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
L'ambassade d'Indonésie au Caire organisera Indonesia Expo 2017. L'exposition dans le commerce, le tourisme et l'investissement devrait être une étape concrète de l'ambassade d'Indonésie dans le renforcement de la diplomatie économique. Les relations de coopération entre l'Indonésie et l'Égypte dans divers domaines peuvent être améliorées grâce au potentiel de l'Égypte, entre autres l'emplacement géographique stratégique en tant que lien entre les continents d'Asie, d'Afrique et d'Europe par le canal de Suez. L'ambassade d'Indonésie au Caire organise Indonesia Expo 2017, l'exposition intégrée du commerce, du tourisme et de l'investissement 2017. Le premier secrétaire des affaires de l'information et socioculturelle de l'ambassade d'Indonésie au Caire, Nini Rahayu, a déclaré à RRI Langli au Caire que cette activité se tiendrait du 21 au 23 septembre 2017 au Caire. On souhaite que cette activité puisse être une étape concrète pour renforcer la diplomatie économique de l'Indonésie. Cet événement est une étape concrète pour l'ambassade d'Indonésie de renforcer la diplomatie économique de l'Indonésie, en particulier dans les domaines du commerce, du tourisme et de l'investissement, bien sûr avec des résultats mesurables. Selon Nini, pour le secteur du tourisme, l'ambassade d'Indonésie invitera les agences de voyage en provenance de l'Indonésie et de l'Égypte à participer à cette exposition. Jusqu'à présent, Bali reste une destination favorite pour les touristes étrangers, y compris les touristes de l'Égypte. Par conséquent, l'ambassade continue d'introduire les principales destinations touristiques d'Indonésie, entre autres Bali. En 2014, environ 10 000 voyageurs égyptiens ont visité l'Indonésie. Ce nombre a augmenté à environ 13 000 à la fin de 2016. L'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, utilise l'activité du Camping scientifique national de la jeunesse, PIRN, afin d'encourager l'augmentation du nombre de chercheurs à l'avenir, au lycée ou équivalent. Il a été déclaré par le chef adjoint de LIPI, Bambang Subianto, au 14e Camping scientifique national de la jeunesse à Aceh Langdi. Selon lui, aujourd'hui, l'Indonésie a besoin de moins de 150 000 chercheurs. Le besoin de chercheurs augmentera en ligne avec la croissance de la population indonésienne. Cette activité est participée par environ 450 jeunes des lycées, les écoles professionnelles ou SMK, ou l'équivalent de 28 provinces. Bambang Subianto a souhaité qu'il y ait des candidats pour les nouveaux chercheurs dans les niveaux central et régional. Quelques emplacements qui seront le lieu de leur recherche, entre autres Pasir Putih, tempat pendaratan ikan ou TPI Lampulo, Semen Andalas, Kampung Lampulo, Lampisang, Waduk Keliling, Lampaya et Lok Sedu. L'Université Hasanuddin, lot de la 4e table ronde de l'Université Trilatérale ou TORM des 3P, à savoir l'Indonésie, l'Australie et le Timor Oriental, tenue du 10 au 12 juillet 2017 au campus de l'Université Hasanuddin Tamalandria, Makassar, Sulawesi du Sud. Le responsable de l'unité des relations publiques et de protocole de l'Université Hasanuddin, Ishak Rahman à Makassar, mardi, a déclaré que la 4e table ronde de l'Université Trilatérale TORM était le forum de dialogue et la réunion annuelle qui visait à renforcer la coopération entre les universités de l'Australie ou Northern Territory Region, l'Indonésie ou Indonésie orientale et Timor-Leste. TORM a été lancé en 2013 par les dirigeants des 3P et certains dirigeants universitaires de ces 3P. Chaque année, TORM organise des réunions pour renforcer le centre d'excellence de chaque collègue dans le cadre de la collaboration et la coopération. La quatrième réunion de TORM à l'Université de Hasanuddin est assistée par plus de 30 participants des universités en Australie, en Indonésie et au Timor-Oriental. La réunion de cette année vise également à augmenter le niveau de la coopération du forum de dialogue en un consortium plus fort. L'Indonésie et l'Iran ont convenu de finaliser les négociations commerciales de l'accord commercial préférentiel Indonésie-Iran ou WIPTA à la fin de 2017. Et cet accord est ciblé pour élargir et diversifier les marchés d'exportation des deux pays. Le chef d'équipe des négociations WIPTA, Made Ayu Martini, dans un communiqué de presse lundi cité par Antara, a déclaré que l'ouverture de l'accès au marché pour les produits excellents d'Indonésie et de l'Iran pourrait augmenter la valeur totale des échanges bilatéraux à 2 milliards de dollars américains par an. L'Indonésie et l'Iran négocient WIPTA à Téhéran, en Iran, dimanche 9 juillet. En effet, les hommes d'affaires de l'Indonésie et de l'Iran peuvent bénéficier de WIPTA de manière optimale. Les deux parties espèrent déterminer immédiatement le mécanisme de paiement pour faciliter les transactions commerciales afin que les gens d'affaires puissent bénéficier non seulement sous la forme de réduction tarifaire, mais aussi une exemption ou une réduction des coûts de transaction lorsque WIPTA a été appliqué. Le gouvernement de Singapour a offert son aide au gouvernement local de Sumatra du Sud pour restaurer les tourbières dans cette région d'être plus productive. Ce désir est transmis par le raisin de Moussi Banyuasin, Sumatra du Sud, Dodi Reza Alex, après sa rencontre avec le ministre de l'Environnement et des Ressources en eau de Singapour, M. Zulkifli bin M. Muhammad à Palembang lundi. Selon Dodi Reza Alex, cette aide et sous forme de renforcement des capacités des ressources humaines dans la province à travers une formation de gestion des tourbières. Selon lui, cette offre est basée sur la réunion du ministre Zulkifli avec le gouverneur de Sumatra du Sud, Alex Nurdin. Outre Dodi, le gouverneur a également invité le raisin Dogan Komering Ilir à rencontrer le ministre Zulkifli pour discuter de la formation de gestion des tourbières. Il a expliqué: les résidences de Moussi Banyuasin et de Dogan Komering Ilir sont invités à assister à la réunion parce que les deux régions ont beaucoup de tourbes. L'une des zones proches des destinations prioritaires du ministère du Tourisme est le lac Toba, qui dans un proche avenir aura un événement international. Le ministère du Tourisme soutiendra la performance musicale intitulée Samosir International Music, tenu le 12 août à Tuk Tuk Siadong, le district de Simanindo, la résidence de Samosir, Sumatra du Sud. Comme cité Republika Online lundi, la zone des affaires du développement de marketing touristique de l'archipel Esti Reko Astuti a dit que cet effort est conforme aux politiques gouvernementales dans le développement des destinations prioritaires. L'une d'elles est la région du lac Toba. Il a ajouté que Samosir International Music devenait l'un des événements excellents. L'événement est également un effort pour augmenter les arrivées des touristes nationaux et les touristes étrangers cette année en résidence de Samosir qui ciblait plus de 200 000 touristes. Cette activité vise aussi à soutenir le programme du Merveilleux d'Indonésie ciblant 15 millions de touristes étrangers et de 165 millions du mouvement des touristes nusantariens. Secrétaire, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les amusants et stimulants. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java: Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel genre de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique, le magazine culturel. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous vous invitons à voyager à la colline Kanji, en province de Nusa Tenggara Ouest. La montagne Rinjani est située à Lombok, la province de Nusa Tenggara Ouest. Cette montagne fait partie du parc national de la montagne Rinjani et son vaste est d'environ 41 330 hectares. La montagne Rinjani est le deuxième plus haut mont à l'Indonésie avec sa hauteur d'environ 3 726 mètres au-dessous du niveau de la mer. Son beau paysage rend cette montagne d'être l'endroit favori des grimpeurs locaux et étrangers. La colline Kanji est située sur la pente du mont Rinjani à une hauteur d'environ 1800 mètres au-dessous du niveau de la mer. En colline Kanji, les visiteurs ne vont pas escalader mais font exploration de la forêt. Lors de l'exploration de la forêt, les visiteurs trouveront divers flores et faunes. Ce qui est intéressant, avant d'explorer la forêt, les visiteurs seront invités par les résidents locaux à faire un rituel traditionnel. Si vous êtes intéressé par la beauté et l'unicité de la colline Kanji, vous pouvez visiter par avion. D'abord, vous devez aller à l'aéroport de Lombok et ensuite louer une voiture au village de Sembalun, le premier village de grimper la montagne Rinjani. Dans ce village, vous pouvez aller directement à la colline de Kanji. Il y a quelques forfaits que vous pouvez choisir pour visiter la colline Kanji, à savoir Wildflower Walk. Vous serez accompagné par un guide, un portier et un guide spirituel. Tout le monde fait le rituel traditionnel dirigé par le guide spirituel avant d'aller dans la forêt. Le guide spirituel fournit les offrandes se composant des cigarettes, des tabacs, des feuilles de betel, l'arec et du riz rouge ou grain, combinés avec la cassonade. Le rituel sera mené en privé par le guide spirituel en présentant les gens qui veulent aller dans la forêt, un par un. Dans la forêt autour de la colline de Kanji, vous trouverez diverses fleurs. L'un d'entre eux est l'orchidée. Ces fleurs poussent sauvagement dans la forêt, soit comme parasite avec sa fleur blanche ou fleur pourpre ressemblée à l'herbe. Outre l'orchidée, il y a aussi de nombreux pins de montagne dominant la forêt. La sève de pin est considérée par les résidents pour soigner les problèmes de santé digestifs. Elle peut être utilisée pour soulager les maux d'estomac ou la diarrhée en état d'urgence. Cependant, il y a aussi des plantes toxiques et dangereuses dans la colline Kanji. Il peut provoquer une irritation et une intoxication telles que feuilles color balite. La feuille est la plus délicate parce que personne n'ose toucher la feuille. Il y a aussi la feuille gelatin qui peut rendre les démangeaisons jusqu'à un mois. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonjour, chers auditrices et auditeurs, nous revenons dans la rubrique Apprendre l'indonésien, qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est kejutan besar. Je répète, kejutan besar, ou en français, la grande surprise. Je vais tout d'abord introduire des vocabulaires et expressions reliant au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer chaque mot deux fois. Kejutan besar. Kejutan besar. En français, la grande surprise. Pagi ini. Pagi ini, en français, ce matin. Menerima, menerima, en français, recevoir. Hari ini, en français, aujourd'hui. Ulang tahun, en français, anniversaire. Sebuah buket mawar. En français, un bouquet de roses. Indah, indah. En français, beau ou belle. Di depan. En français, devant. Kamar, kamar. En français, la chambre. Anak, anak. Anak, anak. En français, les enfants. Suami. Suami, en français, le mari. Chocolat, chocolat, en français, chocolat. Sebuah kartu, en français, la carte. Kue tart, en français, la tarte. Ungkapan, en français, l'expression. Rasa cinta, en français, le goût de l'amour. Keluarga, keluarga, en français, la famille. Maintenant, on va mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation intitulée « Kejutan besar » ou en français « La grande surprise ». Cette conversation est entre Rose A et Erna B au bureau. A. Pagi ini saya menerima kejutan besar. Pagi ini saya menerima kejutan besar. En français, ce matin j'ai reçu une grande surprise. B. Kejutan besar apa? Kejutan besar apa? En français, quelle surprise? A. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. En français, aujourd'hui est mon anniversaire. Ada sebuah buket mawar yang indah di depan kamar saya. Ada sebuah buket mawar yang indah di depan kamar saya. En français, il y a un beau bouquet de roses devant ma chambre. B. Kado dari anak-anak dan suami kamu. Kado dari anak-anak dan suami kamu. En français, un cadeau des enfants et ton mari. A. Ya, selain itu, ada coklat, sebuah kartu, dan juga kue tart. Ya, selain itu, ada coklat, sebuah kartu, dan juga kue tart. En français, oui, de plus il y a le chocolat, la carte et le gâteau. B. Pasti kamu bahagia. Pasti kamu bahagia. En français, bien sûr tu es très heureux. Itu adalah ungkapan cinta dari keluarga kamu. Itu adalah ungkapan cinta dari keluarga kamu. En français, il est une expression de l'amour de ta famille. A. Ya, saya adalah orang yang paling bahagia pagi ini. Ya, saya adalah orang yang paling bahagia pagi ini. En français, oui, je suis la personne la plus heureuse ce matin. Voilà, chers amis, cette édition du programme Apprendre l'Indonésien de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Espérons que cette édition soit utile pour ceux parmi vous qui veulent savoir plus la langue indonésienne. Nous vous reverrons demain avec un sujet différent. Je vous remercie de votre attention et au revoir.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci à écouter la voix d'Indonésie à Jakarta. Voici le magazine musical qui s'agit des musiques traditionnelles et pop d'Indonésie. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voe.ca.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop de dangdut de l'Indonésie qui s'appelle Wika Salim. Pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson de Wika Salim intitulée Je vous. Bonne écoute. C'était la chanson de Wika Salim intitulée Je veux. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.ca.id et nous vous invitons également à rejoindre la Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voeindonesia. La chanson « Entre tous les jours » composée par Chandra Permana raconte quelqu'un qui veut rencontrer son petit ami, mais à cause de la distance, elle ne peut pas le rencontrer. Cette chanson, lancée en février 2017, soulève la musique d'un doute qui est facile à écouter. Une chanteuse née à Bogor le 26 février 1992 est assez connue dans l'industrie de la musique de Dangdut. Son nom commence à être reconnu lorsqu'elle a lancé le premier single intitulé « Emprunté » composé par Chandra Permana. Cette chanson raconte une personne qui doit rembourser la dette de son mari. Elle l'a lancée en 2012. Cette chanson soulève la musique de Dangdut avec la touche de l'instrument musique de pop. Bon, serviteur, écoutons maintenant la chanson suivante de Vika Salim, intitulée « Emprunté ». Bonne écoute. C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonésie. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.